La première,
18h30, 19h le samedi,
coupé au montage,
avec Myriam Leroy.
La vie peut parfois vous couper au montage ou au générique, mais rien n'est jamais perdu, ni le temps, ni l'expérience vécue. Bienvenue sur le versant nord de la carrière des artistes. Coupé au montage, c'est une émission en forme de making-of qui jette un œil sur le banc des réservistes, qui rend hommage au rang du fond de la classe et qui tire son chapeau à tous ceux qui savent perdre et se perdre avec panache. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Coupé au montage. Nous accueillons ce soir un enfant prodigue qui a délaissé la Belgique pour les sirènes parisiennes, si c'est pas honteux. C'est un humoriste qui a la carte. Il est partout, il fait le travail d'au moins 15 hommes. C'est Alex Vizorek. Bonsoir Alex.
Bonsoir Myriam Leroy.
J'imagine que vous avez énormément le trac de passer dans cette émission.
Alors, j'aime beaucoup votre émission, je vous l'ai dit. Et donc, j'étais flatté d'y venir. Maintenant, comme j'ai connu très peu d'échecs, je me suis dit, je ne vais jamais être invité.
Non, évidemment.
Mais je sens que vous allez m'en trouver. Et surtout, quand je l'écoute, c'est une vraie thérapie parce que, honteusement, on se met toujours à la place de l'invité. On se dit, ah bah oui, on a souffert, oui, c'est dur. Et donc, maintenant, j'y suis. Donc, je suis impatient.
Vous faites quoi, vous, Alex, en ce moment dans la vie? En manière très résumée.
Je travaille tout le temps. C'est-à-dire que je cours derrière ne jamais perdre l'occasion d'avoir du travail, si vous voulez. J'ai l'impression qu'il faut que j'accepte beaucoup de choses, que je sois toujours bon, et que comme ça, on continuera à me donner des terrains de jeu chaque fois plus grands qui me permettront, bah, j'espère, de continuer à faire rire les gens. Ouais.
Il paraît que vous acceptez absolument tout ce qu'on vous propose, même et surtout si vous n'avez pas le temps, et qu'après, vous vous arrangez avec la réalité de votre horaire.
Ça a été vrai. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. En fait, j'essaye toujours de voir la chose que j'estimerais la moins importante que je suis en train de faire. Si on me propose un truc mieux que celle-là, alors je prends. Maintenant, je me fais beaucoup aider. Je le dis sans aucun souci. C'est-à-dire que je travaille avec des gens, mais c'est moi le chef de chantier. C'est moi qui décide de vers où on va, de comment on fait. Mm-hmm. Et puis, je lance mes camarades sur me donner des idées, proposer des choses, machin. Mais c'est vrai que tout ça fait qu'on me voit beaucoup. Tout ça fait que parfois, les gens se disent « Ah bah tiens, ça, il pourrait être bien pour compléter tel ou tel projet. » Et donc, on m'appelle. Et donc, quand c'est original et décalé ou différent, bah, j'essaye de l'accepter. Ouais.
Et vous n'avez pas peur de lasser les gens en apparaissant partout ?
Si, énormément.
Ce n'est pas une question orientée.
Oui.
Vraiment. Dans le cadre d'un plan de carrière, il y a des acteurs, par exemple, qui se font rares pour justement susciter le désir des metteurs en scène. Vous êtes humoriste, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais quand même, je pense.
C'est-à-dire que vous pouvez probablement plus vite lasser le milieu que le public. C'est-à-dire que soit il vous aime énormément, il vous suit partout. Mais bon, là, je pense qu'on n'est pas dans une Bruel mania, pour ce qui est de mon cas. Quand il m'arrive de faire deux fois la même vanne, c'est-à-dire une fois, par exemple, au Café Serré, que je sais qu'écouter en Belgique, et si elle s'adapte à potentiellement une chronique sur Inter, je reçois un ou deux tweets de personnes qui l'ont repéré, mais qui sont plutôt contents de l'avoir repéré. C'est pas un reproche. Je me dis, viserais que tu recycles. Mais bon, j'essaye de calculer, si vous voulez. Je me dis, tiens, sur la première, il y a peut-être 100 000 personnes qui m'écoutent. Donc, si j'apparais avec 600 000 chez C'est à vous, ça fait jamais que 700 000 sur 70 000, donc 70 000 personnes potentielles francophones de...
Non, vous faites vraiment ce genre de calcul ?
Mais comme ça, je me rends compte que je ne vais pas lasser trop vite.
Très pragmatique, Alex Vizorek.
Toujours.
Oui.
Enfin, c'est toujours la première réflexion, elle est pragmatique.
Ouais.
Après, on fait entrer la sensibilité.
Vous l'avez dit, vous avez des auteurs,
oui.
Pour que votre vie soit humainement possible.
Des co-auteurs.
C'est
important.
C'est vrai. C'est même des gens qui ont des carrières,
oui. Hein,
et une notoriété.
Oui, je peux citer Pierre Cherette, qu'on connaît bien sur cette antenne, qui m'a envoyé un petit mot du temps où c'était probablement plus compliqué pour lui à Pure FM, alors qu'il avait beaucoup de talent. Et je me suis dit, mais ils sont bien idiots de lui donner moins de place. J'ai dit, écris des vannes, et si elles sont bonnes, je les prends, et on bosse ensemble. Et ça s'est fait. Il a beaucoup de talent maintenant. J'ai dit, mais n'accepte plus rien chez ces salauds qui t'ont jeté. Viens habiter avec moi, je vais agrandir mon appartement.
C'est vrai que Pure FM, ça fait aussi partie de la RTVF.
Mais c'est pour ça que je le dis avec grand plaisir.
mais moi, ça m'étonne, parce que je croyais que votre grand kiff, c'était l'écriture. Alors, quand on délègue une partie de l'écriture à d'autres personnes, je ne comprends pas très bien la contradiction ou le paradoxe. Là-dedans.
C'est tout à fait vrai, mais ça va avec la non-envie de lasser. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que les gens ils se disent « Tiens, demain Alex, il a Louis Michel, on sait très bien ce qu'il va lui dire. » Donc j'aime bien quand d'ailleurs on me propose un autre point de départ, une autre bonne idée, une bonne vanne. Si la vanne est bonne, elle est drôle, je l'intègre, je la réécris. C'est pour ça que j'aime bien dire co-auteur. Mm-hmm. Je trouve que c'est un plaisir qu'on peut partager. Maintenant, évidemment, c'est moi qui signe en haut et quand il y a un problème, c'est arrivé. C'est moi qui l'assume.
Oui, vous vous assurez le service après-vente.
Ah bah oui.
Et Dieu merci. C'est quoi vous, votre plus grand plaisir dans ce métier ? C'est où que vous la cherchez, votre exaltation, votre rétribution ?
C'est quand je reçois des demandes. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a un an, on m'a dit « Alex, est-ce que tu voudrais bien faire Pierret le Loup avec un orchestre pour jouer en Belgique, machin ?» Je lis ce mail et je suis excité. Je me vois déjà avec cet orchestre à côté de moi. Et je me dis « Mais évidemment, j'accepte ça. Évidemment, je fais ça. » Et on ne m'aurait jamais proposé ça si je n'étais pas un peu dans le viseur des médias, des gens. Donc, quand j'ai ça, je suis hyper fier et j'y fonce. Et...
Vous aimez bien qu'on vous drague, en fait hein.
Ouais.
C'est ça que vous nous racontez. Ça fait quelques années maintenant que vous avez un pied à Paris, deux aujourd'hui.
Presque neuf orteils, ouais.
Ouais. Est-ce que vous habitez toujours dans ce 14 mètres carrés de Saint-Gervais-des-Prés ou bien maintenant votre train de vie vous a autorisé un vrai appartement et pas un clapier ?
Eh bien, exclusivité.
Oui.
Je passe dans 31 mètres carrés, mais je suis obligé de déménager parce que je n'aurais pas eu les moyens à Saint-Germain. Donc
Et c'est une coloc.
Non, quand même pas. je me glisse vers la Tour Eiffel.
Vous avez dit en interview, je vais être honnête, je préfère être le numéro 3 dans une émission française que le numéro 1 dans une émission belge. C'est à la limite d'être vexant pour les numéros 1 d'émissions belges.
Mais... Oh non, vous savez que je ne suis jamais à dire du mal de mes petits camarades.
C'est vrai, malheureusement, jamais.
Non, c'est-à-dire que je compare souvent au foot. C'est-à-dire que si je pouvais... aller être un joueur moyen du Real Madrid plutôt que d'être le meneur de jeu d'Anderlecht, bah j'irais, je pense, avec... Non, c'est là que ouais, je vais ajouter un truc, avec cette ambition intérieure de me dire « Eh ben moi, je vais devenir le numéro un au Real Madrid. » Parce que je pourrais monter plus haut.
Et la France, c'est forcément une division devant la Belgique ?
Pragmatiquement parlant, 66 millions de gens que vous pouvez faire rire. En Belgique, 4,5 millions de francophones. Et en plus, vous faites rire les Belges francophones en allant en France. Mmh. Donc c'est vraiment parce que j'ai envie de faire rire le plus de gens. J'estime pas que le public est qualitativement plus élevé, pas du tout. Maintenant, les moyens qu'on a là-bas, pour quand vous avez une idée de sketch là-bas, vous avez trois personnes qui vous aident, vous avez, ouais, il me faut ci, il me faut ça, ouais, pas de problème, on va te trouver, machin. Et ça, c'est quand même un luxe.
Et on ne perd pas le plaisir du brol un peu foutraque, bricolé ?
On essaye de le garder, parce que quand on pense que ça sera plus efficace avec le brawl foutrac, on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire que si je dois bricoler moi-même une marionnette qui doit avoir l'air moche, je préfère le faire moi-même parce que ça aura cette justesse-là. On continue à bricoler des choses, c'est-à-dire que par exemple, on pourrait s'offrir un imitateur dans l'émission de l'après-midi, mais on trouve ça beaucoup plus rigolo d'imiter nous-mêmes,
oui.
Jacques Chirac, même si on le fait très mal. Et donc on le fait, et ce côté foutrac ressort comme étant presque hype pour les Français.
Oui, bien sûr. Une de vos chroniques qui a fait le plus parler d'elle en France et en Belgique, c'est un billet sur Marine Le Pen, devant Marine Le Pen, dans la matinale de France Inter. Écoutez-vous.
Vraiment, c'est pas un cadeau. Vous savez comme c'est difficile pour un chroniqueur dit humoristique de traiter un représentant du Front National. C'est le triangle des Bermudes de notre profession. Quand je dis triangle, vous voyez aucun clin d'œil, évidemment, maçonnique. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une zone qu'on aimerait éviter puisqu'il n'y a que deux solutions. Soit on le bétonne frontalement, mais c'est tellement attendu. Et comme le disait Bergson, le rire, c'est la surprise. Donc si c'est attendu, il n'y a pas de surprise. Donc pas de rire. C'est mon petit plaisir de citer Bergson. On n'est pas chez Bourdin ici. Alors, Marine Le Pen. Soit je vous fais rire. Et là, je passe immédiatement pour un collabo de la Gaudriole. Mais oui, mais même des proches sur cette antenne s'y est cassé les dents face à votre père qui était mort de rire au saillie assassine de son interlocuteur et qui en devenait sympathique. Revoyez les images, même vous, vous le trouverez sympathique, votre père, sur ces images-là.
Alex Vizorek sur France Inter face à Marine Le Pen. Quand on vous dit Alex, demain on reçoit Marine, vous vous dites quoi ? Super, un grand défi ou bien merde, le traquenard, impossible, je vais me casser les dents là-dessus.
Bah, je l'explique un peu là, parce que normalement, elle reste pas. Depuis Sophia Aram, qui l'avait bétonnée, elle s'est élevée, elle était partie, elle restait plus pour les humoristes. Allez savoir pourquoi ce jour-là, elle m'a trouvé sympathique. Mon petit côté arien, j'ai pas d'idée. Mais elle est restée, et ça s'est plutôt bien passé parce que j'avais choisi un espèce d'axe qui ni la dédiabolisait, ni la faisait rire, parce que c'est, comme je l'explique, c'est assez dangereux. Moi, j'avais bien aimé cette chronique de Desproges, mais Le Pen paraissait sympa. Donc, c'est très difficile. Maintenant, avec le recul, j'aimerais bien avoir Marion Maréchal un matin. Donc c'est parce qu'elle vient chez France Inter, et j'aimerais bien faire une chronique sur « Est-ce possible un couple entre moi et elle ? » Est-ce possible d'avoir une femme au Front National ?
Vous n'aimez pas vous fâcher avec les gens, vous ?
Pas spécialement, non.
C'est arrivé une fois, je pense, dans votre vie.
Si, toujours Front National ?
Non. Ah. J'avais envie que vous nous parliez de Patrick Bruel, parce que vous l'aviez un petit peu vexé à l'époque.
Mais oui, non, je l'ai vexé, c'est-à-dire que j'avais fait, c'était plutôt émouvant. Je peux même vous donner une autre exclue.
Génial.
Parce que donc je m'étais moqué d'Amanda Sterz.
En fait,
j'avais fait une vanne, un bon mot, la mère de ses enfants. Et il est venu me voir en disant « Mais pourquoi t'as fait ça ?» machin, machin. Et donc, il a été chevalier élégant. Et vous dire que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec Guillaume Canet, qui n'a pas apprécié un sketch sur Marion Cotillard.
C'est vrai ?
Oui. Il nous a passé un petit coup de fil.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
C'était plutôt mignon. Ça aurait été un politicien, je ne l'aurais pas pris au téléphone. Mais c'était plutôt mignon. C'est-à-dire qu'il dit « Ouais, on vous écoute et tout. Et franchement, là, vous avez été dans un endroit où ça ne nous a pas fait rire et je voulais vous en parler. » C'était pas de l'engueulade, c'était pour le débat. Et donc, je trouvais ça... Voilà, plutôt chevalier blanc.
Oui, voilà. Humain comme Théma.
Voilà, et résultat, Marion Cotillard est venue chez Trappenard 2 semaines après. Et nous avons avec Guillaume Meurice, c'était lui amener un grand bouquet de fleurs. Elle a beaucoup ri et voilà, c'est oublié, je suis réconcilié.
Et vous êtes bien réconcilié avec Amanda Sterz aussi.
Et oui, vous voyez que je devrais dire plus de mal taclé, de plus de gens.
Puisqu'elle vous a engagé dans le film. Elle est écrivain au départ, mais elle est devenue réalisatrice. Elle a réalisé un film qui s'appelle, je pense, Madame.
Tout à fait.
Dans lequel vous avez un rôle. Quel rôle ?
Mais je suis le coiffeur de Toni Collette.
Votre rêve d'enfance, en fait.
C'est vrai.
Être coiffeur.
C'est ce que je lui ai dit à Amanda Sterz, parce que quand j'étais gamin, le seul métier que je me voyais faire, c'était coiffeur. Elle a rigolé. Elle est venue me voir en spectacle. Et elle m'a dit, à la sortie, tiens, je suis venu, mais pas par hasard, parce que peut-être j'ai un rôle dans mon film. C'est avec Hervé Kettel, Toni Collette et Rossi de Palma. Je me suis dit, il y a une blague.
Un dîner de con.
Mais, mais bon, après, c'est plutôt sympa. On peut tomber dans ce piège-là. Donc, je dis, bah oui, évidemment. Elle me dit, mais tu veux pas lire le scénario ? Je dis, si, si, mais je te dis oui, parce que quelqu'un vienne me le demander, comme on parlait tout à l'heure de se faire draguer, ça me suffit. J'aime pas l'idée d'aller faire les castings. J'ai pas besoin du cinéma. C'est un terrain de jeu que je trouve rigolo, mais qui ne m'attire pas au point de tout mettre de côté. Et donc, je me suis retrouvé à prendre des cours d'anglais, à perfectionner mon anglais avec une coach, parce que le film est en anglais.
Ah oui !
Mais oui !
Et on m'a dit que vous aviez une bonne anecdote sur une scène que vous auriez dû tourner avec Harvey Keitel.
Vous allez être la première à avoir cette anecdote, alors je vous la donne.
Je la veux.
C'est que Harvey Keitel trouvait que j'avais une bonne tête, comme ça, en se baladant. Et on n'a pas de scène ensemble. Et donc, au maquillage, j'aime bien aller lui serrer la main. C'est quand même énorme, comme bad lieutenant qui est là. Je dis, Mr. Keitel, who are you? You are being a Parisian. Il fait, oh, Jacques. Il m'appelle Jacques parce que c'est le nom du rôle. Il fait, oh, Jacques. We don't have a scene together. Je dis, mais Keitel qui est en train de me dire, on n'a pas une scène ensemble.
Et qui est déçu.
Et oui, qui est déçu. Je dis, ils sont gentils, ces Américains. Ils sont très professionnels. Et puis, je rentre chez moi parce que c'était à lui de tourner. Et on m'envoie un texto en disant, Harvey voudrait tourner une scène avec toi. Est-ce que tu peux revenir?
Chouette.
Texto que j'ai encadré.
Oui.
Donc je réponds, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire dans ma vie que tourner une scène avec Harvey Keitel maintenant ? Donc je reviens, je refais les 40 minutes qui me reséparent du plateau de tournage. Et en arrivant, on me dit, oui, alors là, ça ne va peut-être pas se passer aussi bien que tu penses, parce qu'il n'avait pas prévu qu'il y avait une autre scène à tourner. Donc lui, il voulait juste être une scène en plus à l'écran, c'est des vieux cabots. Mm-hmm. J'ai dit, donc on m'a fait aller-retour pour rien. Oui, comment te dire ? Je dis, je peux juste aller l'engueuler dans la loge. Je dis, bah oui, bien sûr, vas-y, quoi. Donc j'arrive. Moi, comme ça, tout fier d'aller engueuler avec Keitel. Je lui fais « Mr. Keitel, you change your mind ?» Il me fait « Oh, Jacques, sorry, you know it's a misunderstanding. » Et il s'excuse. Je trouvais ça tellement mignon. J'ai dit « J'ai l'anecdote de ma vie. »
Mais oui.
Qui est beaucoup plus drôle que si j'avais tourné de scène avec Harvey Keitel en fond.
Oui, évidemment.
Donc voilà, donc, il s'est excusé. Donc il m'a promis au prochain film d'Amanda Sterz qu'on faisait ensemble qu'on aurait une scène à deux.
Ah, génial. Oui, voilà, ça risque probablement de se produire. Hein,
oui. je vous sens moqueuse. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée que j'ai une dette de scène avec Harvey Keitel.
Vous l'avez dit, votre truc à vous, ce n'est pas nécessairement le cinéma. C'est plutôt la scène de toutes vos activités. S'il fallait en retenir une seule, ce serait la scène, votre Absolument. Spectacle. Que vous traînez depuis quand même combien d'années, ce spectacle Alexis Dorec est une œuvre d'art.
Le titre est le même. C'est-à-dire que certaines personnes ont eu l'intelligence d'appeler leur spectacle avec leur nom. Donc, si j'avais appelé Alex Vizorek, on ne m'aurait pas trop reproché. Mmh. J'aurais changé l'affiche. Mais ici, voilà, il s'avère que là, à nouveau, je suis de plus en plus connu. Et chaque fois par palier, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de boom. Il n'y a pas un matin où tout le monde s'est levé en disant « Putain, t'as vu le mec hier à la télé, il est extraordinaire. » Mais ça monte à chaque fois. Donc, les gens parfois se disent bah, « Tiens, on irait bien le voir sur scène. » Et je dis « Mais ça fait 6 ans que j'y suis, je vais continuer, ça me fait plaisir que vous veniez. » Et donc, les salles sont toujours remplies. Je joue à Paris tous les dimanches sans discontinuer depuis maintenant presque 2 ans. Et les salles sont pleines. Donc voilà.
Voilà la raison pour laquelle, sur ce plan-là, on pourrait peut-être vous qualifier de paresseux. C'est possible ?
Vous pourriez. Vous pourriez. Je griffonne un nouveau spectacle.
Ah !
Mais vous pourriez tout à fait. Mais là, c'est parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Et cette angoisse de ne pas montrer aux gens le meilleur de moi-même. Ce spectacle est quand même, je pense, le meilleur de moi-même parce que les mauvaises vannes, j'ai eu 6 ans pour les enlever. Je suis, moi, bien meilleur sur scène qu'il y a 6 ans. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque de leur donner un nouveau spectacle pas encore abouti. Donc je repousse un peu cette chose-là.
Un petit extrait de spectacle à présent, mais pas le vôtre, celui d'un autre, de Laurent Lafitte, qui joue à l'humoriste de base, mais vraiment de base.
C'est qui est venu en voiture? Lève la main, faut avoir peur, hein. Non, à vélo? À pied, là-haut, non? Tout là-haut, non? En métro, non? Vous levez pas la main, vous? Non, vous êtes pas venu, en fait. En taxi? Oh, monsieur le marquis de la Feuille en vrai. Là, vous payez l'ISF, ou non? Ah, ben moi, j'ai pas une thune et ça m'empêche pas de me taper des gonzesses. Hein. Moi aussi, je paye l'ISF. L'impôt sur la faune.
Un sketch de Laurent Lafitte qui joue à l'humoriste beauf. Ah, il le fait exprès, hein, c'est pas.
Vous voulez m'emmener.
C'est...